Bonjour à tous. C'est une joie également partagée que d'être avec vous ce matin, de partager, de vivre ce temps de, à la fois de communion verticale et de communion horizontale. C'est le signe de la croix d'ailleurs, communion verticale avec Dieu. Et si on a cette communion verticale, on ne peut aussi qu'avoir une communion horizontale, c'est-à-dire les uns avec les autres. Nous avons entendu parler au tout début, Eric nous a parlé de David qui a eu une vie assez... C'était pas un long fleuve tranquille pour lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a d'autres personnages dans l'Écriture où leur vie n'a pas été... où Dieu ne leur livrait pas un bouquet de roses tous les matins par Interflora. Ou alors ils ont reçu que les épines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais j'imagine que vous, ici, rassemblés ce matin, vous êtes, bien plus spirituel que moi. Parce que moi, je n'arrête pas de me poser 1000 questions au sujet de Dieu. Et souvent, ces questions commencent par pourquoi. Alors, évidemment, je n'ai pas toujours les réponses. Mais souvent, c'est ça. Et donc... Et quand on est dans les difficultés, dans la tourmente, ce n'est certainement pas le verset que Job a prononcé, Job 13, verset 16, qui dit « Cela même peut servir à mon salut ». Ce n'est pas du tout la première chose à laquelle je pense. Et cependant, ça devrait être. Donc... comme je l'ai dit, vous êtes beaucoup plus spirituel que moi, donc vous ne vous êtes jamais posé ces questions. Mais pourquoi dois-je passer par la souffrance? Pourquoi dois-je passer par telle difficulté, par des nuits sans sommeil, des moments douloureux dans la vie? Mais pourquoi? 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 Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite cela? Dieu ne peut-il pas accomplir ses plans sans que je n'aie à souffrir? Ne pourrait-il pas utiliser un autre moyen pour que je grandisse spirituellement et que j'apprenne à mieux le connaître, pour mieux le servir, pour mieux l'aimer? Quand même, enfin. Alors, j'ai lu, relu, re-relu un livre dans l'Ancien Testament, et là je fais référence au livre de Job, en l'occurrence. Et je vous avoue que lorsque nous lisons les trois premiers chapitres de ce livre, pour ma part, il y a de quoi être troublé, pour ne pas dire déconcerté. On rencontre Dieu et Satan en train de discuter comme deux bons vieux copains, et ils sont en train de jouer au dé le destin de Job. Et s'il en est ainsi de Job, ça peut très bien être la même chose pour vous et moi. Vous avez déjà pensé à cela. Alors, nous ne savons pas qui a écrit ou quand, mais d'un côté, il nous éclaire sur bien des mystères, ce livre. Job est le premier livre de la Bible qui aborde le terme de la théodicée, c'est-à-dire c'est une partie de la théologie qui traite du mystère du mal dans l'univers. Et oui, pourquoi? Parce que finalement, si Dieu est si grand, si Dieu est si bon, et si Dieu est amour, mais pourquoi il y a tant de mauvaises choses qui arrivent? Et souvent, à tellement de gens bien, comme vous et moi, par exemple, en tant que chrétiens. Alors, le livre de Job bien présente un récit qui est digne d'intérêt sur ce sujet. Et je résume en quelques mots l'histoire de Job. Qui était Job? Bien, nous savons, c'était un riche chef de tribu du Moyen-Orient. Il connaît Dieu, il aime Dieu. C'est quelqu'un qui est respecté, qui aime les personnes qui sont dans le besoin, qui aide les personnes qui sont dans le besoin. C'est quelqu'un qui est aimable, il est juste, généreux, rempli de sagesse. C'est un mari fidèle, il ne convoite pas d'autres femmes. C'est un père qui est concerné par ses enfants. D'ailleurs, nous le voyons, il prie tous les jours pour eux. Puis soudainement, Job est frappé par diverses épreuves. Les champs sont détruits. Ses troupeaux volés, ses richesses pillées, et le pire de tout, ses enfants sont tués. Et vous savez, comme l'on dit, un malheur n'arrive jamais seul. C'est-à-dire que Job est atteint d'un mal mystérieux. Son corps est couvert d'ulcères, son corps commence même à pourrir, il est pratiquement mort, c'est un mort vivant pratiquement. Et dans un premier temps, Job veut mourir en maudissant le jour qu'il l'a vu naître. Et il pose la question, pourquoi Dieu ne m'a pas fait mourir pour mettre fin à mes souffrances? Qui a déjà eu cette pensée? Pourquoi ne suis-je pas mort au lieu de vivre toute cette misère? La souffrance physique et émotionnelle est telle que Job préfère la tombe. Et beaucoup de questions alors occupent l'esprit de Job, dont beaucoup s'adressent à Dieu. Et quand on lit ce livre en entier, on peut relever pas moins de 290 questions. Et la majorité d'entre elles bien, commence par « Pourquoi ?» Et nous voyons que Job n'est pas seul. Il est entouré d'amis, et ses bons amis viennent bien sûr pour l'encourager, le soutenir. Et puis, leur dialogue eh bien, occupe une grande place dans le livre. Alors, voyons, qu'est-ce que peuvent dire ses amis à leur ami Job? C'est le premier point. Et que disent-ils? Tu sais, Job, tes souffrances, c'est sans aucun doute le résultat d'un péché que tu as dans ta vie. Oui, tu nous caches peut-être des choses parce que tu en as honte. Donc tu n'oses pas le dire. Tu as certainement, mais c'est même sûr que tu as un péché caché qui n'est pas confessé dans ta vie. Alors le conseil arrive. Job, si tu te repens, Dieu va soulager ta misère et tes problèmes vont être effacés, solutionnés, envolés. Pour Job, ça n'a aucun sens, parce que ses paroles n'ont aucune résonance en lui. Pour deux raisons. La première, c'est que Job n'a pas conscience d'un péché qui aurait pu lui attirer ce genre de colère. Même s'il ne prétend pas être parfait, il ne prétend pas être sans péché, il a vraiment le sentiment d'avoir fait preuve de morale, d'éthique, et de justice dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Puis la deuxième raison, Job a remarqué que beaucoup de délinquants, de malotrus, avaient une vie aisée, et même s'ils ont l'air de commettre bien plus de péchés, eh bien ces personnes vivent comme dans une sorte de tour d'ivoire, sans problème. Alors, il est normal de se poser des questions. Et dans notre parcours de vie chrétienne, je pense à nous, Chantal et moi, il y a eu plusieurs événements qui sont venus et que nous n'avons pas toujours tout compris. Et alors je vous parle, je ne l'ai toujours pas compris. Nous avons prié au sujet de ces situations concernant notre vie, notre famille, le ministère. Et puis nous connaissions ce qu'il y avait bien au fond de notre cœur comme Job. Et au lieu de voir Dieu répondre à nos prières, bien parfois c'est le contraire qui se faisait, le contraire de ce que nous attendions. Alors, dans ces moments-là, la foi et la confiance sont ébranlées. Et en relisant Job, eh bien, il a eu les mêmes questions. Alors ce matin, on peut être encouragé quelque part, alors que ses souffrances étaient bien plus grandes que les nôtres. Alors, Job a pleuré, Job a gémi, Job a fulminé, Job a contrarié ses amis et a rejeté leurs conseils. Il a souhaité la mort en disant « Si seulement, ah, si seulement je n'étais jamais né !» Il a maudit sa souffrance et espéré en être délivré pour se retrouver face à face avec Dieu. Alors, quand on avance notre lecture dans la Bible, on arrive au Nouveau Testament. Et là, c'est le deuxième point. Plusieurs siècles plus tard, dans le Nouveau Testament, c'est Jacques, l'apôtre, qui dit que Job est un modèle pour chacun de nous dans les moments de soucis et d'épreuves. Alors, voici ce qu'il dit, l'ami Jacques, au chapitre 5, versets 10 à 11. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Dans tout ce qu'il a vécu de difficile, Job n'a jamais perdu sa foi dans la vérité citée par l'apôtre Paul lui-même en Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il y a une traduction qui s'appelle la parole vivante. Elle l'exprime d'une autre manière. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qui ont été appelés au salut. Bien sûr, ce texte n'était ni connu, ni écrit à l'époque de Job. Et cette vérité existait déjà. Job avait sa version personnelle quand il dit à ses amis en Job 13, 16, « Cela même sera salutaire pour moi. » Et l'apôtre Jacques nous dit, « Regardez à Job. Quand les difficultés arrivent dans notre vie, étudions sa réaction et imitons-le. Eh bien oui, c'est vrai, il a été blessé, il s'est emporté, il a posé des questions. » Mais il a persévéré, il a fait confiance à Dieu et il a découvert finalement que le Seigneur avait beaucoup de compassion et de grâce. Et Job a été béni. Malgré sa souffrance, les luttes dans son être intérieur, en dépit de toutes ses questions et sa douleur, Job réussit quand même avec une foi solide, a exprimé trois paroles de confiance en son Seigneur dans les chapitres 13, chapitres 19 et 23. La première parole en 13-15. Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui. La deuxième parole, chapitre 19, versets 25 à 26. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau sera détruite, eh bien moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Puis, troisième parole, chapitre 23, versets 10 à 12. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie. Qu'il me passa au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Pour Job, même si Dieu est insaisissable, mystérieux, étrange et silencieux, invisible et en apparence passif, eh bien, Dieu reste digne de confiance. Et quand on arrive à la fin du livre, après que Job et ses amis aient fait tout le tour du sujet, bien leur dialogue est épuisé, finalement ils n'ont plus rien à se dire, alors nous voyons quelque chose d'extraordinaire. C'est le Seigneur qui prend le relais et apparaît comme dans un tourbillon et il interpelle Job. C'est au tour de Dieu de poser quelques questions à Job. Moi, je m'attendais à ce que Dieu viennent voir Job et qui lui expliquent tout le déroulement de ce que Job a vécu et le pourquoi surtout. Mais rien du tout. Silence total. Et c'est le troisième point, l'intervention de Dieu. Dieu ne donne pas aucune explication quant à son intervention. Et c'est même lui qui va poser des questions à Job. La première question, dis-moi, Job, où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? Puis deuxième question, as-tu appris à l'aigle à prendre son envol? Troisième question, as-tu créé les grands animaux et les petites gouttes de rosée? Troisième question, quatrième, ne penses-tu pas que je sais ce que je fais? Cinquième question, ne penses-tu pas que je sois suffisamment grand pour prendre soin de mes enfants? Sixième question, as-tu oublié que je fais concourir toutes choses pour le bien? En fait, en un mot, Dieu disait à Job, « Hé, Job, tu vois, même quand tu ne comprends pas, je suis celui en qui tu dois avoir confiance. » Et dans le Nouveau Testament, bien, Jésus résume la leçon de Job en Jean 16, verset 33. Dans le monde, je rappelle que l'évangile de Jean, c'est aussi de la bonne nouvelle, vous aurez à souffrir bien des difficultés. Mais, courage! Moi, j'ai vaincu le monde. Mes amis, vous et moi, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne sommes pas appelés à marcher selon nos émotions, selon nos sentiments, selon les circonstances du moment. Non, par la foi. Il est impossible de plaire à Dieu, sinon. Celles et ceux qui servent le Seigneur doivent croire que Dieu est capable de transformer le mal en bien, en bénédiction. In fine, nous pourrions dire, ah, finalement, chez Job, c'est comme dans un film, tout est bien qui finit bien pour Job. C'est vrai qu'on peut le dire. En fait, c'est facile pour nous de dire cela quand on connaît l'histoire. Mais au moment où Job vivait tout cela, il ne connaissait pas la fin. Et vous savez que pour nous, c'est aussi la même chose. Quand nous sommes au centre de la tempête, nous ne savons pas quand cela va s'arrêter. Nous ne savons pas dans quel état nous allons en sortir. Et c'est là qu'intervient la confiance et la foi dans notre Sauveur et Seigneur. Au milieu de la tourmente, de la détresse, de la souffrance physique et morale, Job n'a pas abandonné sa foi. Il est sorti de la vallée de douleur, plus fort et plus heureux que jamais, capable de communiquer l'espoir aux autres et même jusqu'à nous aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire qui nous concerne. En regardant en arrière, nous étions arrivés en Polynésie le 25 décembre 2007. Et fin 2009, Chantal a eu l'opportunité de passer un concours dans le cadre de son travail. Elle réussit ce concours, ce qui lui donne une promotion, et elle devait rentrer en métropole après 2 ans et demi, alors que le séjour prévu était de 4 ans. Nous avons quitté ce territoire en mai 2010, avec, quelques regrets, et aussi avec quelques questions, bien sûr. Pourquoi partir au bout de 2 ans et demi alors qu'il était prévu une période de 4 ans? Et l'église avec laquelle je travaillais là-bas avait organisé tout un programme pour que je visite les 5 archipels du territoire. Donc la réponse au pourquoi, bien, elle est venue au mois de novembre 2010. Je tombe malade et le diagnostic, c'est un cancer. Donc, opération en janvier et mars 2011, et une telle intervention était impossible là-bas. C'était impossible. Ou alors, il aurait fallu que je sois évacué sur la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Donc, Dieu seul savait et il avait préparé notre retour pour cela. Je pourrais raconter bien d'autres histoires comme ça que nous avons vécues. Je le fais déjà un peu tard, enfin, quoi qu'on a une heure d'avance. Mais il faut que j'en garde pour les autres fois. Je crois que parmi nous, ici ce matin, certains pourraient aussi témoigner de situations difficiles, avec la santé, avec le travail, avec la famille, et dire comment toutes ces difficultés ont fini par s'arranger. Imaginons que Job soit parmi nous ce matin, ici. Il serait d'accord, il ferait un clin d'œil, en levant le pouce, en signe d'encouragement. Avec un bon clin d'œil comme ça. Moi, j'y suis passé. Et regardez-moi. Et pour conclure, nous pouvons peut-être retenir trois leçons. D'abord, la première, il nous faut résister à la tentation de tout expliquer. Parce que Dieu sait tout. Si on pouvait tout savoir, on serait à la même hauteur que Dieu. Or, ça, c'est impossible. Et puis deuxième, il nous faut nous concentrer sur nos avantages futurs, notre destination finale, et non sur l'immédiat. Dieu conduit tout. Et puis troisième leçon, il nous faut croire à la souveraineté du Tout-Puissant. Dieu contrôle tout, rien ne lui échappe, à la fois dans nos propres vies, et dans le monde. Rien ne lui échappe. Tout ce qui nous arrive, même ce que nous pouvons expliquer ou justifier, fait partie d'une trame d'ensemble, fait partie d'un scénario. Et aujourd'hui, tout paraît peut-être confus, mais un jour, les détails apparaîtront. Et alors prendront tout leur sens. Moi, je m'attends, quand j'arriverai là-haut, peut-être que j'oserais poser des questions au Seigneur. Pourquoi tu te souviens, Seigneur, quand il est arrivé ça dans notre vie? J'ai toujours pas compris, mais maintenant que je suis là, tu vas m'expliquer. Et là, il va appuyer sur le bouton de son ordinateur et tout va sortir. Ah oui, maintenant je comprends. Bon, ça c'est mon imagination qui des fois me joue des tours, je l'avoue. Alors, si nous pouvions faire un résumé du livre de Job, le message principal serait « La vie est remplie de difficultés et de souffrances ». C'est vrai, même pour le chrétien. Et il est bon de poser des questions, oui, et d'avoir parfois des sentiments de colère, oui, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé. Mais, ne devenons pas amers. Ne soyons pas remplis de regrets. Ne soyons pas remplis de haine et n'abandonnons pas notre foi, parce que toutes ces choses contribueront à notre bien. Et Dieu les transformera en bienfaits, si nous gardons les yeux fixés sur lui et que nous marchions par la foi et non par la vue. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez encouragés dans votre marche, même si vous êtes dans la tourmente. Vous avez le droit de vous poser les questions. Pourquoi ? Dieu le sait, Dieu le voit, et il a déjà préparé la sortie et la suite. Soyez bénis.